François Billot de Lochner, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle que vous êtes président de l'association Stop au Porno. Nous voyons avec vous depuis plusieurs émissions comment lutter contre la pornographie. Et aujourd'hui, nous allons parler de morale avec l'exigence d'une morale affective et sexuelle.
Exactement. Bon, d'abord, je voudrais donc saluer les auditeurs que je trouve courageux d'écouter des émissions comme celle-là, parce que la pornographie est un sujet à la fois terriblement sensible, terriblement dramatique, et beaucoup, beaucoup d'entre nous préfèrent se terrer dans leur coin et ne pas en parler, parce que c'est un sujet qui met mal à l'aise. Alors que le sujet est tellement important qu'il faut au contraire en parler, en parler, en parler, et ne cesser d'en parler, car c'est un véritable tsunami qui est en train d'envahir le monde entier. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'exigence morale qui doit structurer complètement le combat contre la pornographie. Parce que s'il n'y a pas de morale, s'il n'y a pas une morale qui soit explicite sur le sujet de la vie affective et sexuelle, ça n'est même pas la peine d'essayer de combattre la pornographie. Ça ne sert à rien. Alors, vous allez me dire, oui, mais la morale, c'est dépassé, ça ne concerne plus le 21e siècle, c'était des notions anciennes qui n'ont plus cours. Alors, que ce soit des notions qui n'ont plus cours, c'est une évidence, puisqu'aujourd'hui, la morale affective et sexuelle est complètement mise de côté. En revanche, pendant des millénaires, ça a sous-tendu l'épanouissement de l'homme et de la femme. Donc, il y a quand même une véritable utilité, sinon on n'aurait pas attendu plusieurs millénaires pour dire que ça n'a plus cours. Alors, je voudrais partir simplement des 10 commandements qui sont extrêmement clairs et qui datent d'il y a 3000 ans et qui ont structuré finalement une morale générale notamment pour tous ceux qui ont accepté ensuite l'enseignement du Christ et auparavant ce qui était dit par la Bible. Et il se trouve que dans les 10 commandements, la morale affective et sexuelle est prédominante. Alors, je voudrais simplement en donner 2 ou 3. Parce qu'il y a 10 commandements, donc c'est quand même intéressant de voir le nombre de commandements qui peuvent s'appliquer à la morale sexuelle. Tu ne commettras pas d'adultère. Il est évident que la pornographie est un adultère permanent, puisque ça consiste effectivement, et le Christ l'a très bien expliqué dans l'Évangile, à convoiter la femme de son voisin, ou d'ailleurs toutes les femmes, qui défilent sur les écrans que l'on regarde, les écrans pornographiques, ou dans les livres pornographiques que l'on lit, ou dans tous les matériaux pornographiques que l'on utilise, c'est évidemment la femme qui est au cœur du sujet, et l'adultère, il est permanent. C'est donc, par rapport aux 10 commandements, quelque chose d'extrêmement grave, la pornographie. Je pense que ça ne se discute même pas. Un autre commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ni son serviteur, ni sa servante. Rien de ce qui lui appartient. Quand on convoite la femme de son voisin, donc c'est un des 10 commandements qui est un autre par rapport à « tu ne commettras pas d'adultère ». Donc on voit bien que quand on regarde la pornographie, on convoite toutes les femmes que l'on regarde. C'est une évidence. Là aussi, ça ne se discute même pas. Donc ça fait le 2e commandement où l'on dit « la pornographie est un drame ». Parce qu'il n'y a que 10 commandements quand même. Et ça fait le 2. Je dirais qu'il y en a pratiquement un 3e. Honore ton père et ta mère. Il est sûr que dans un foyer où il y a ses parents, regarder des matériaux pornographiques, que ce soit des vidéos, des films, que ce soit des revues, c'est déshonorer son père et sa mère. Parce que c'est en fait la vie qui nous a été donnée par notre père et notre mère, par un acte magnifique, est complètement déshonoré, bafoué, violé par des images où on voit des hommes et des femmes qui, en fait, font la même chose que le père et la mère, mais pas du tout dans le même objectif. Autant dans l'objectif de ses parents, c'est un objectif sacré, celui de donner la vie, autant dans ce que l'on lit, regarde, etc. chez soi, c'est un objectif absolument catastrophique, un objectif vil, un objectif qui est totalement contraire à la vie qui est donnée par les parents. Donc, on voit que sur 10 commandements, il y en a 3 au moins qui peuvent, je dirais, s'attacher à la condamnation de la pornographie. Alors, donc, la morale est fondamentale. Alors, c'est quoi la morale ? Ça consiste effectivement à structurer une pensée autour du bien et autour du mal. Et la pornographie est reconnue, alors là, on peut dire véritablement maintenant, presque unanimement, je dirais par 80% en tous les cas de la population qui considère que la pornographie pose un véritable problème, est un problème extrêmement grave. Alors ça, on le sait par les sondages qui sont faits là-dessus. Et également, on voit bien que régulièrement maintenant, la classe politique, la classe médiatique, le milieu juridique se posent de véritables questions. Alors, on en est encore uniquement au questionnement, mais c'est déjà un premier pas qui est fait. Je rappelle que Macron, qui est un président complètement libéral, complètement libertaire, qui l'affiche, a fait une déclaration à l'UNESCO extrêmement claire en disant qu'il faut absolument protéger les enfants d'Internet par rapport à la pornographie. C'était il y a 18 mois. Donc, il a même menacé. Il a menacé en disant si Google et Microsoft ne mettent pas en place des protections contre la pornographie vis-à-vis des enfants, nous ferons une loi. Bon, ce n'était évidemment que de la gesticulation médiatique, puisque rien n'a été fait depuis, mais au moins le sujet est évoqué publiquement, même si, je le répète, ce n'est que de la communication. Mais au moins, on en parle. C'est déjà mieux que rien. Alors, quand il n'y a pas de morale affective et sexuelle, on en arrive à des dérèglements inouïs. Je voudrais citer un seul exemple qui me semble extrêmement caractéristique de la vague pornographique qui attaque toutes les couches de la société, qui fait qu'on est effectivement écrasé par ce tsunami. La région Île-de-France est dirigée par une femme qui s'appelle Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, originaire de Versailles, ville plutôt catholique, ville plutôt de la résistance, et Valérie Pécresse qui a côtoyé les milieux résistants de Versailles, les milieux catholiques de Versailles, et qui s'est affichée longtemps comme proche de ces milieux. Qu'a fait Valérie Pécresse pendant les 6 ans où elle a été présidente de la région Île-de-France ? Elle a fait 2 choses parmi d'autres. Je n'en cite que 2 tellement elles sont inouïes et inimaginables. Elle a financé à hauteur de 800 000 euros par an le fameux festival Solidaise, qui est le festival de la pornographie, qui est le festival extraordinaire, qui a pour but, soi-disant, de récolter des fonds pour lutter contre le sida, mais qui est un festival fréquenté par des centaines de milliers de jeunes, de très jeunes, et qui est un festival qui, en fait, promeut la pornographie à une... Ce n'est même pas à haute dose, c'est à haute dose inimaginable. C'est-à-dire que les jeunes qui fréquentent ce festival peuvent apprendre dans les différents stands, par des vidéos, par des films, toutes les déviances les plus dramatiques par le biais de la pornographie, qui est le fil conducteur de ce festival. Et ça va jusqu'à montrer des pratiques sadomasochistes, et je n'ose même pas à l'antenne dire ce qui est raconté par ceux qui animent ce festival. Toutes les pratiques sexuelles les plus épouvantables sont montrées par des films, par des vidéos, par des conférences, par des brochures. C'est le festival de l'horreur. Deuxième chose, La région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, finance à hauteur de 3 millions d'euros par an le CRIPS, C-R-I-P-S. Le CRIPS qui revendique d'être extrêmement connu, d'avoir des fichiers absolument considérables et d'agir pour... Alors d'agir auprès des lycéens, des collégiens et même dans les écoles primaires. Et le CRIPS, en fait, c'est le Festival Solidaise multiplié par 3 en horreur. C'est-à-dire que tout est fait par le CRIPS pour que les collégiens, les lycéens, les enfants des écoles primaires soient totalement pervertis. Et on leur apprend toutes les perversions, les pires. Donc là, je ne donne pas de détails, mais je pense que tout le monde comprend. Et quand je dis les pires, ce sont vraiment les pires, les plus catastrophiques. Les perversions sexuelles en groupe ou de façon solitaire, entre garçons et filles, entre filles, et tout ça dans des conditions d'exhibition par le CRIPS, qui sont des exhibitions insupportables. Insupportables. Et tout ça, alors le CRIPS, d'ailleurs, annonce clairement la couleur. Son action a pour but, notamment, je cite, de déconstruire l'hétérosexualité. On voit ce que ça veut dire. Donc on peut dire que ça n'est pas idéologique. Donc, alors je ne cite pas les mots les plus grossiers qu'ils emploient, les mots les plus vils. En fait, ils réduisent vraiment les jeunes gens, les jeunes filles, de quelques années jusqu'à 18 ans à peu près. Ils les réduisent en objets sexuels, en objets de consommation de tous, par tous, quel que soit l'âge, dans cette fourchette d'âge. C'est absolument insupportable, intolérable. Ignoble. Alors, je reviens à la présidente de la région Île-de-France. Ben, la présidente de la région Île-de-France, théoriquement catholique, finance avec joie et bonne humeur ce genre d'infamie, payée donc par nos impôts. Donc, nous payons en fait les fonctionnaires de la région Île-de-France pour qu'ils pervertissent à haute dose les collégiens, les lycéens, les enfants des écoles primaires de notre région, de la région Île-de-France. Cela est évidemment totalement insupportable. Alors, pourquoi ? Alors maintenant la question, et j'en reviens un petit peu au thème de notre matinée, comment une région dirigée par une personnalité d'origine catholique peut-elle arriver à de telles extrémités? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a plus aucune morale affective et sexuelle. On considère le « on » étant là, dans mon langage, le « on » s'appliquant justement aux dirigeants de la région Île-de-France, aux personnalités du monde éducatif, etc., etc., au monde associatif homosexualiste, complètement libertaire, complètement LGBT. Donc l'idée, c'est de dire « tout est possible, tout est permis ». Il n'y a aucune morale affective et sexuelle. Ça n'est pas la peine de ringardiser la jeunesse avec des notions qui n'ont plus de raison d'être. Et on en arrive à des dérives absolument inouïes. Alors, la morale affective et sexuelle, c'est quoi ? Ça consiste à dire qu'il y a un bien pour la personne et qu'il y a un mal pour la personne. Ce bien ou ce mal, se traduisant par un bien pour les familles ou un mal pour les familles, se traduisant pour un bien pour la société ou un mal pour la société. Alors, tout démarre, si je puis dire, au niveau de la personne, parce que c'est bien dans ce sens-là que ça se passe. C'est bien la personne qui promeut le bien ou le mal et qui donc dans la famille va promouvoir le bien ou le mal et dans la société va promouvoir le bien ou le mal. Et en contrepartie, la société, elle, s'enrichit ou au contraire s'appauvrit en accentuant et en faisant en sorte qu'il y ait un effet de cliquet, un retour sur la personne et sur la famille dans le sens du bien ou du mal. Donc la morale est absolument fondamental dans ce combat. Ça veut donc dire qu'il faut donc partir de l'incidence de la pornographie sur la personne. L'incidence de la pornographie sur la personne, et j'ai eu l'occasion de le dire, est absolument catastrophique pour la personne. C'est catastrophique pour son âme, pour son esprit, pour son cœur et pour son corps. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler pendant 4 heures pour savoir, évidemment, que la pornographie est un mal absolu. Ça détruit l'âme. Pourquoi ? Parce que toute la notion de hauteur, je dirais, vers les belles hauteurs de la pureté, sont complètement détruites par la pornographie qui mécanise complètement le corps et qui réduit en fait la personne à un objet de consommation, comme je le disais tout à l'heure. Donc la notion d'âme, évidemment, est profondément entaillée, voire totalement détruite par la pornographie. La pornographie détruit aussi l'esprit de la personne, son intelligence. En fait, la pornographie bestialise, animalise complètement l'être humain, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit adulte ou enfant. Et cela est absolument dramatique parce que, à force de transformer la belle personne en un animal, l'animal prend le dessus et il n'y a plus de belle personne. Il n'y a qu'un animal doté d'un semblant d'âme ou d'intelligence, mais qui en fait succombe complètement à ses pulsions primaires. Donc sur le plan de l'intelligence, c'est une véritable catastrophe. Sur le plan du cœur, la pornographie est une véritable catastrophe. Comment un homme ou une femme pourra-t-il s'attacher durablement à son conjoint ou à son conjointe ou à sa conjointe si, à longueur de journée, fait éruption dans sa vie personnelle, dans son foyer, dans ses relations, fait éruption des abominations où, effectivement, la personne voit des choses abominables concernant la sexualité. Il est évident que le cœur en prend un coup absolument considérable. Et puis le corps également en prend un coup considérable. C'est le fameux problème du cerveau, si vous voulez, c'est le fameux problème de la dopamine que les neuroscientifiques ont parfaitement analysé depuis des années et des années. La pornographie, à long terme, abîme complètement le cerveau, transforme le cerveau et rend en réalité la personne complètement addictive, complètement esclave de ses pulsions primaires. Bon, c'est le fameux problème de la dopamine, mais les auditeurs pourront regarder sur le web ce que c'est que la dopamine. On ne va pas rentrer dans un grand débat scientifique, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui maintenant est prouvé par les neurosciences. Donc, la pornographie est un mal absolu. Il n'y a aucune possibilité de trouver une chose positive dans la pornographie. Ça fait des années et des années que je travaille sur le sujet et véritablement, il n'y a aucune possibilité. Un jour, dans une conférence, je disais un petit peu la même chose et dans le cadre des questions-réponses, un psychiatre s'est levé. Et il m'a dit, je ne comprends pas du tout ce que vous racontez, la pornographie peut tout à fait apporter des choses positives dans l'épanouissement de la vie affective et sexuelle de la jeunesse, etc., etc. Donc il est parti sur une contradiction, j'allais dire, assez directe. Donc je l'ai écouté, et puis alors il me dit, il rajoute un oui, et puis alors vous évoquez des notions de pureté, tout ça est complètement dépassé, la pureté c'est complètement, chacun fait ce qu'il veut en fait, et quelqu'un qui se livre à la pornographie peut avoir un esprit parfaitement pur, là vous mélangez un petit peu tout, etc. Alors, je lui dis très bien. Donc, il termine son intervention. Et donc, je lui dis, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vais vous poser une seule question. Est-ce que vous avez des enfants? Et il me dit, oui, j'ai une fille qui a 18 ans. Ben, je lui dis, écoutez, comme la pornographie ne pose absolument aucun problème, que la liberté sexuelle, manifestement pour vous, est totale, moi, je vous propose une chose. Il se trouve que nous sommes en train de monter une vidéo pornographique et je serais enchanté que votre fille soit actrice, puisque manifestement, tout ça ne pose pas le moindre problème. Et là, le psychiatre s'est assis, a rentré la tête dans ses épaules et n'a plus dit un mot jusqu'à la fin. Et je raconte cette anecdote parce que elle est tragique. Elle est absolument tragique parce que ceux qui sont tout à fait lucides sur la pornographie, bon ben au moins, même s'ils n'agissent pas beaucoup pour contrer, au moins ils ont la lucidité de dire c'est mal. Mais quand des gens qui savent très bien que c'est mal osent dire publiquement que c'est bien, c'est insupportable. Et cette personne, c'était exactement ça. Elle savait parfaitement que c'était mal, puisque quand j'ai parlé de sa fille, le psychiatre a rentré sa tête dans ses épaules. Physiquement, c'était tout à fait incroyable. Il s'est voûté. Il a parfaitement compris ce que je voulais dire. Et il savait très bien qu'il n'était pas question que sa fille rentre dans le jeu pornographique. Mais il expliquait que ça ne posait aucun problème. Donc, en gros, pour les autres, la pornographie ne pose aucun problème, mais pour ma fille, il n'en est pas question. Quel drame quand on raisonne comme ça. Quel faux raisonnement. Quelle façon d'évacuer complètement. En gros, le mal, c'est pour les autres, mais moi, je m'arrange pour que... Voilà, je m'arrange pour que... Non, pas moi quand même. Et dans ce sens, je voudrais citer une phrase extrêmement célèbre de Nicolas de Taverneau, le patron de la CIS, de M6. Alors, je rappelle qu'M6 a été le promoteur de la pornographie télévisée. C'est M6 qui a fait rentrer la pornographie en France sur les chaînes de télévision. La responsabilité de M6 est donc extrêmement grande sur le sujet. Et un jour, Nicolas de Taverneau, son président, était interrogé par La Une, par des journalistes de La Une qui, dans le journal de 20h, donc c'était vraiment une émission, j'allais dire, très regardée par des millions et des millions de personnes. Et donc, la journaliste dit à Nicolas de Taverneau, lui pose une question, êtes-vous, à titre personnel, les programmes de la CIS vous vont bien ? Alors, Taverneau savait très bien qu'il était un promoteur de la pornographie, notamment par ses films pornographiques qu'il avait insérés dans ses émissions. Et Nicolas Taverneau répond, une phrase qui est restée célèbre, qu'il faut garder en mémoire, « Je passe mes journées à faire en sorte que les gens regardent la CIS et je passe mes soirées à expliquer à mes enfants qu'il ne faut pas regarder la CIS. » Et on est dans la même logique que le psychiatre. C'est-à-dire que on refuse, Nicolas de Taverneau refuse toute morale affective et sexuelle. On peut faire sur la CIS tout ce qu'on veut, on peut projeter des films pornographiques, ça ne pose aucun problème, la morale n'existe pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est ringard, tout ça est dépassé. Mais comme par hasard, pour ces enfants, là, il y a de la morale. Et donc, il ne faut pas que ses enfants regardent le travail de papa. Non, papa, il travaille toute la journée, mais il ne faut pas que les enfants regardent ce que fait papa. Et là, on est un petit peu dans la même logique que le psychiatre. Et je crois que ça traduit l'extraordinaire laxisme, l'extraordinaire libertarisme, notamment des élites qui sont des grandes promotrices de la pornographie. Donc, il faut lutter évidemment contre ça et il faut absolument rétablir des règles morales évidentes axées sur la définition du bien, la définition du mal, dire à temps et à contre-temps que la pornographie est un mal absolu et à temps et à contre-temps qu'il faut lutter contre la pornographie. Et surtout, faire en sorte que nos enfants ou les adultes, parce que là, les adultes sont extrêmement sensibilisés malheureusement par le tsunami pornographique, mais en tant que consommateurs, il faut à temps et à contre-temps en parler, expliquer que c'est un mal absolu et qu'il faut surtout éviter de tomber dedans. Aujourd'hui, il est presque acquis que tout le monde tombe dans la pornographie et on essaye de sortir les gens de la pornographie. Bon, c'est très bien d'essayer de sortir les gens de la pornographie, c'est magnifique, c'est une œuvre salutaire, c'est fondamental. Mais il faut surtout et d'abord essayer d'éviter qu'ils tombent dans la pornographie. Et pour cela, il faut que les parents, d'abord, soient extrêmement fermes sur le sujet. J'allais dire à titre personnel, pour eux, c'est-à-dire que les parents ne tombent pas dans la pornographie. Mais il faut aussi, je crois que c'est fondamental, que les parents éduquent les enfants pour éviter que les enfants tombent dans la pornographie. Et pour cela, il faut qu'ils parlent de la pornographie à temps et à contre-temps, il faut qu'ils parlent de la vie affective et sexuelle à leurs enfants, il faut ouvrir de grands débats et il faut dire les choses telles qu'elles sont et non pas du tout se terrer, se cacher, se mettre sous terre en disant « pourvu que mes enfants ne me parlent pas de ce sujet-là, parce que de toutes les façons je me sens mal à l'aise ». Non, pas du tout, il faut être à l'aise avec ce sujet. Même s'il est dramatique, il faut en parler. On n'arrête pas de parler de toutes les façons à ses enfants de choses dramatiques. Il y a beaucoup de choses dramatiques dans le monde. Donc il ne faut surtout pas évacuer celle-là qui est au cœur de la vie familiale en plus. Donc il faut absolument que les parents se forment sur le plan moral, qu'ils n'aient pas peur, parce que moi ça me fait toujours rire quand on me dit, je l'entends régulièrement, oui, vous êtes pour l'ordre moral. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette expression stupide? Parce qu'il y a vraiment, il n'y a pas plus stupide que cette expression. L'ordre immoral, c'est l'ordre dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un ordre moral basé sur l'immoralité. Et c'est un ordre moral totalement dictatorial, puisqu'il est dans toutes les couches de la société, il est dans tout ce que fait la société de pornographique à longueur de journée. Nous sommes dans une dictature morale qui est profondément immorale, parce que l'immoralité, c'est une morale. Il ne faut pas croire que l'immoralité ou la moralité, A-M-O-R-A-L-I-T, il ne faut pas croire que ça signifie qu'il n'y a plus de morale. Mais non, c'est une morale, mais c'est une morale diabolique, c'est une morale destructrice. Donc, quand on parle d'ordre moral, mais bien sûr que nous sommes dans un ordre moral, c'est une évidence. La seule chose, c'est que moi, personnellement, je préfère un ordre moral qui est moral plutôt qu'un ordre moral dictatorial qui impose l'immoralité. Et donc, arrêtons de parler de moraline, d'ordre moral qui est complètement dépassé. Mais c'est une stupidité de dire ça. Franchement, je suis désolé, c'est stupide. Je ne vois pas, il n'y a pas le moindre raisonnement dans ce genre de phrase. Donc, il faut bien sûr préférer l'ordre moral qui se bat pour qu'il y ait une véritable belle morale. Je préfère ça à un ordre dictatorial immoral qui est l'ordre immoral dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, il ne faut avoir aucun complexe. Il faut être décomplexé. Et même si nous sommes très peu nombreux à avoir ce genre de raisonnement, le monde catholique, j'espère, a ce genre de raisonnement. Il se bagarre, il doit se bagarrer en tous les cas pour que la morale qui a été historiquement, depuis des millénaires, un des piliers d'épanouissement de la personne ne soit pas abattu par la dictature immorale qui est un ordre moral immoral. Voilà. Donc c'est absolument fondamental, essentiel, et il ne faut surtout pas, je crois, partir du principe que on doit être dans un langage très souple. Oui, ça n'est pas très très bien tout ça, mais enfin bon, ce n'est pas très grave. J'ai entendu l'autre jour j'ai été complètement effaré par une formatrice, entre guillemets, en vie affective et sexuelle, qui racontait sur une radio, alors c'est une catholique, hein, donc sûrement une personne remarquable à titre personnel, hein, je n'attaque pas du tout personnellement, elle se donne du mal certainement, mais elle a eu un discours sur ses formations dans les collèges ou lycées, ses formations en vie affective et sexuelle, elle a eu une anecdote qui m'a absolument sidéré et scotché. Elle racontait qu'après une formation d'une heure, une jeune fille très jeune était venue la voir en lui disant « Ah, j'ai beaucoup aimé votre formation et donc je tiens à vous dire une chose, c'est que en fait, je suis désolé d'être un peu grossier, je suis la putain de la classe. » Bon. On voit ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, tous les garçons étaient passés à la casserole. Pardonnez ma vulgarité. Et la personne qui était à la radio raconte que je lui expliquais que c'était une très belle personne, que je mettrais son nom dans mon carnet et je penserais souvent à elle, etc., etc. Et là, je me suis dit, on est exactement à l'envers. On est à l'envers de ce qu'il faut faire. Et je suis désolé, cette jeune fille, quand elle se traduit comme la putain de la classe, ce n'est pas une belle personne. On ne peut pas la qualifier comme ça. C'est une personne qui peut devenir très belle, sûrement. Mais aujourd'hui, quand elle raconte ça, c'est absolument dramatique. Bon, et donc, on aurait dû avoir le langage inverse. Il aurait fallu dire à cette jeune fille, ce que tu fais là est absolument catastrophique, désastreux. Je te remercie infiniment de venir me le dire. Je te remercie infiniment parce que ça me permet d'en discuter avec toi. Mais ce que tu fais là est catastrophique. Il faut que tu deviennes une belle personne. Tu dois avoir les fondements de cela puisque tu viens me raconter effectivement ce que tu fais qui est catastrophique. Donc, ensemble, on va essayer de travailler pour que tu deviennes une très belle personne. Et donc, la première chose à faire aujourd'hui, c'est que tu me promettes d'arrêter d'être la putain de la classe. Il faut que tu arrêtes tout de suite. Et tu vas voir qu'ensemble, on va travailler ensemble, on va se débrouiller pour se faire des visioconférences tous les 8 ou 15 jours, mais tu vas voir, on va travailler ensemble et tu vas devenir une très belle personne. Et je crois que c'est... Il faut vraiment inverser les choses, alors qu'on a beaucoup trop tendance aujourd'hui. Bon, oui, très bien, bah écoute, c'est pas formidable ce que tu fais, mais sûrement que tu es une fille très bien. Et, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire la fille en question? Elle va continuer, évidemment, elle va continuer. Et elle va tomber dans le trou au bout de 3, 4, 5 ans, quand elle aura 20 ans, 21 ans, 22 ans. Que deviendra-t-elle? On peut prévoir ce qu'elle deviendra. On peut tout à fait prévoir ce qu'elle deviendra. Donc, et on ne peut pas avoir une sorte de charité apparente qui est en fait un laxisme peu charitable. Non, il faut vraiment reprendre en main ce genre de personnes très charitablement, mais avec une fermeté très grande. Et ne pas surtout rentrer dans une sorte d'acceptation, de compromission.
Peut-être une petite remarque. Je discutais il y a quelques jours avec des personnes que je venais de rencontrer et qui déploraient une chose. Alors, ça concernait la violence, mais je pense que ça concerne aussi la pornographie. Les âges indiqués pour regarder un film. Il y a interdit au moins de 10 ans, au moins de 12 ans, au moins de 15 ans et au moins de 18 ans. Et donc, ces personnes me disaient que, en fait, ces âges étaient mal évalués et que souvent, par exemple, un film est autorisé au plus de 10 ans, souvent, justement, les enfants de 10, 11, 12 ans sont trop jeunes pour ce film-là.
Ah oui, c'est une excellente remarque. Les âges sont complètement faux. Effectivement, il faudrait rajouter plusieurs années systématiquement. C'est-à-dire quand on dit interdit à moins de 12 ans, ça veut probablement dire que c'est 16 ans, si vous voulez. Voire même, je dirais que si on pousse le raisonnement un peu loin, quand c'est interdit en général, effectivement, à moins de 12 ans, 14 ans ou 16 ans, souvent, ce sont des films qui ne sont pas tellement regardables, en fait. Parce que, en réalité, si vous voulez, un adolescent de 16 ou 17 ans, il faut quand même essayer d'éviter qu'il voit un certain nombre de choses. Et on a des films d'une violence inouïe qui sont simplement interdits au moins de 12 ans. Alors là, ça déborde de la pornographie. Hein. C'est de la violence, effectivement, à l'état pur. Mais sur la pornographie, effectivement, il y a vraiment un énorme problème sur ce sujet. Parce que, en réalité, les élites culturelles, administratives, cinématographiques et tout ce que l'on veut ont des notions justement de ce qu'il est possible de voir ou de ne pas voir, totalement élastiques. Donc finalement, ils sont d'une souplesse extrême sur le sujet, et donc on peut dire qu'effectivement, il y a un véritable problème. Oui, là, il y a un véritable problème, ça c'est sûr. Oui, je suis bien d'accord. Oui.
Alors, nous venons de recevoir un SMS d'une auditrice, Fabia. Bonjour, juste un petit témoignage, mise en garde. Ma petite voisine a enterré sa vie de jeune fille comme cela se fait parfois. Ses amis lui ont commandé un striptease. Attention, elle m'a montré les vidéos après 5 secondes. Je lui ai demandé d'arrêter, c'est grave. Voilà, et elle ajoute, ça va loin, à déconseiller absolument. J'étais choquée du peu que j'ai vu.
Eh bien oui, allez, dites donc. Oui, ce sont des témoignages qui font froid dans le dos. Oui, ça c'est sûr. De façon générale, c'est vrai qu'il faut, je pense, vraiment indiquer à ses enfants, mais aussi dans son entourage d'ailleurs, que ça, parce que ça vaut aussi pour le monde des adultes. En réalité, il faut quand même faire très attention à son environnement sur ce sujet-là. Ça c'est sûr. Parce que l'environnement peut vraiment vous tirer, en fait, sans même que vous vous en rendiez compte, vers la pornographie. Puis ça, c'est par petites touches, si vous voulez, et puis voilà, et puis on tombe tout d'un coup dedans, et puis on devient addict, et on ne peut plus s'en débarrasser. Donc il faut être extrêmement prudent, c'est sûr, et il faut faire extrêmement attention, évidemment, à ses enfants, à leurs relations. Voilà, c'est tout un énorme problème. C'est vraiment un énorme problème. Et aujourd'hui, objectivement, chacun fait son travail dans son coin pour essayer de lutter contre ce fléau. Mais vraiment, c'est une lutte. Là, c'est vraiment le tout petit pot de terre contre le gigantesque pot de fer. Là, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais ça n'est pas grave. Notre travail est de faire notre travail, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup, François Bellotte de Lochner, pour cette émission.
Eh bien, merci beaucoup, cher ami. C'était un plaisir, si je puis dire, sur un sujet comme ça. Hein. Voilà. Et donc, merci aux auditeurs, en tous les cas, d'avoir supporté mon petit discours pendant plus d'une demi-heure. Voilà.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Merci beaucoup. À très bientôt.
Au revoir.